Bonjour. Ce matin, je voudrais qu'on lise dans le livre des Juges, au chapitre 6. Le livre des Juges, au chapitre 6. Alors, pour résumer un peu, moi je vais même pas résumer, je vais lire carrément. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, dans les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui et détruisait les productions des pays jusque vers Gaza. Il ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes et arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de la servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient, je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Voilà, ça c'est le contexte. Israël pillé par les ennemis, par une multitude d'ennemis qui, comme des sauterelles, comme vous connaissez ce qui se passe des fois, les sauterelles qui envahissent les cultures, il ne reste rien, quoi. Et on va continuer la lecture. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc là, vous avez quelqu'un, Gédéon, qui est en mode, on va dire, sur des rapports maintenant, en mode survivaliste, retranché dans sa base arrière autonome, qui est en train de battre du froment qu'il a récupéré dans un pressoir. C'est pas tout à fait dans des pressoirs qu'on bat du froment, hein, mais il était caché de tous, sûrement dans un coin, dans les montagnes, et il battait du froment pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël des mains de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit: Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon rentra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Il la porta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit: Prends de la chair et des pains sans levain, pose-les sur le rocher, répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et il toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher, un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange éternel disparut à ses yeux. Gédéon, comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon partit, bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom de l'autel Paix, l'Éternel Paix, Adonai Shalom. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Je m'arrête là. Ça vous arrive souvent, vous, de... Quelqu'un arrive, vous rencontrez une personne qui dit, qui vous dit, vaillant héros, que l'Éternel soit avec toi, vaillant héros. Est-ce que ça vous est arrivé, vous? Non? Le gars, il est peureux. Il avait de quoi, hein. Je veux dire que c'est pas un jugement de valeur. Il se cache des ennemis tellement il y en a partout. Et malgré le fait qu'il soit caché, il y a quelqu'un qui arrive et qui lui dit, je vais reprendre le texte. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors j'ai vérifié le texte hébraïque pour des fois qu'il y avait des problèmes de traduction. C'est bien vaillant héros. C'est même plus que ça, puisque c'est le même mot qui est utilisé pour les héros fameux des temps antiques, à l'époque de la Genèse, les géants qui étaient dans la Genèse, qui étaient les fameux héros. Donc c'était vraiment the big one au niveau héroïsme. Donc, le gars, il est mort de trouille. Il a une très haute opinion de lui-même. Je suis le plus petit, des plus petits, des plus petits, des plus petits. Mais que dit l'Éternel, puisque c'est l'ange de l'Éternel quand même, il lui dit, vaillant héros, je t'appelle à délivrer Israël de Madian. Alors, il commence à négocier. Oui, mais alors pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Pourquoi nos pères nous ont parlé des prodiges que tu as fait en Égypte, tu nous as délivrés, tu as ouvert la mer, tu as vaincu Pharaon et toute son armée, tu nous as donné une terre, tu nous as même fait des victoires et des victoires quand on parle de Jéricho et tout ça. Et puis là, tout d'un coup, on est dans la détresse, on est dans l'adversité, tu nous as abandonnés. Tu nous as livrés entre les mains de Madian. C'est plein de reproches quand même. Hein. Et que dit Dieu? L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu a appelé personnellement Gédéon. Après, bon, on verra qu'il y aurait plein de choses à dire sur Gédéon. La première chose qu'il fait déjà, c'est qu'il détruit les idoles de Baal, qui étaient la cause du péché d'Israël déjà. Et il change de nom. C'est-à-dire qu'il passe de Gédéon à Yérobaal. Ça veut dire contre celui qui est contre les idoles, contre Baal. Et après, il arrive à... Il est balèze, hein. Il arrive à rassembler 33 000 hommes. Bon, ils étaient plusieurs centaines de mille de l'autre côté, mais 33 000 hommes. Et Dieu lui dit, non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Et Dieu fait de loterie en disant, bah, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Et finalement, il n'en reste que 300. Vous lirez le reste du texte. Parce que Dieu dit, il faut que tu saches que tu vas avec la force que tu as, mais que je suis avec toi. Et en fait, Gédéon n'aura jamais à combattre. Avec ses 300 hommes, il entourera le camp de Madian et leurs frappeurs avec des chauffards, des cornes de bélier, et des torches cachées dans des cruches qui vont casser et qui vont se faire croire qu'ils sont des milliers alors qu'ils ne sont pas des milliers, quoi. Ils sont juste 300. Et un miracle, c'est que les gens vont s'entretuer, enfin les ennemis vont s'entretuer et vont être après continuer d'être tués par les restes d'Israël qui se rassemblent. Et il y a une grande délivrance qui se fait. Mais bon, ça c'est l'histoire d'Israël. Quelle est la signification de ça pour nous aujourd'hui? Je vois souvent, aussi bien chrétien que croyant de manière générale, qu'on a une très mauvaise opinion de nous-mêmes. On vit sous l'oppression. L'oppression de Madian, justifiée ou pas justifiée, l'oppression de l'ennemi. On a des promesses dans la Bible, on a des promesses. Dieu sauve, Dieu guérit, nous avons tout dans le Messie. Hein. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et malgré tout, on voit qu'on est tributaire d'épreuves, de maladies. Il y a des sauterelles qui nous pillent. Et l'Éternel nous dit que l'Éternel soit avec toi, vaillant héros. Que l'Éternel soit avec toi, vaillant héros, va avec la force que tu as. Juste la force que tu as. Je ne crois pas que vous soyez là par hasard. Tous ceux qui sont là ici, présents, ne sont pas là par hasard. Tous ceux qui ont cru en l'Éternel, tous ceux qui ont accepté que Jésus était le Messie, ne sont pas là par hasard. Ils ont été, je dirais, appelés dès la fondation du monde. J'ai bien aimé l'introduction de Vincent qui disait qu'on était élus dès la fondation du monde. Et quelle que soit la personne, même si actuellement elle n'est pas croyante, même si actuellement c'est la pire des athées, si elle a été élue dès la fondation du monde, il n'y aura aucun souci. On peut lire dans Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 1 et au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je réponds: ah, Seigneur Éternel, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur des nations, sur des royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. On est dans le même cas de figure. Le petit Jérémie, je ne sais pas s'il était petit d'ailleurs, hein. Je suis qu'un enfant, je ne sais pas s'il était à quel âge il a été appelé. Mais s'il était appelé, même s'il était un enfant, le Seigneur lui dit: avant même que tu fusses conçu, je te connaissais, je t'avais déjà consacré. Avant même que tu étais un embryon, comme on dit, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Après ça, quand tu as Dieu qui te dit ça, toi tu vas dire: ah oui, mais moi je suis le plus petit, je ne sais pas parler, je bégaye. Ben oui, tu bégayes, tu ne sais pas parler, tu es petit, mais va avec la force que tu as, puisque c'est moi qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. Va avec la force. Ne cherche pas à regarder à toi ce que tu es. Ne cherche pas à regarder ta position. Effectivement, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, mais va avec la force que tu as. Dans Jérémie, toujours, on peut lire avant de changer, je vais passer aussi sur le psaume 139, qui est un psaume important qu'on lit, mais comme ça, mais bon. Au verset 13. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant même que chacun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Dans le ventre de ma mère, lorsque j'étais une masse informe, alors le verbe hébreu, c'est quand j'étais un embryon. Comme tu me voyais, et tous mes jours étaient devant toi. Alors sachez que pour chacun d'entre nous, Dieu nous voit, et tous nos jours sont devant lui. La profondeur de ce texte, la profondeur du texte de Jérémie aussi, qui disait qu'avant même que tu fusses conçu, je t'avais consacré. Vous n'êtes pas sur terre par hasard. Vous n'êtes pas dans cette église par hasard. Vous n'avez pas connu Dieu par hasard. Vous n'êtes pas croyant par hasard. Dieu appelle. Mais ce n'est pas une théorie, ce n'est pas du style, tiens, j'ai eu un coup de bol, un jour j'ai croisé quelqu'un qui m'a parlé de Dieu. Ouais, non. Il n'y a rien. Tout ça fait partie d'un dessein, d'un plan, d'un projet. Vous ne le connaissez peut-être pas, le projet. Et Dieu ne nous demande pas de le connaître. Moi, je sais que quand j'étais appelé à l'âge de 16 ans, vous savez, vous connaissez enfin non, vous connaissez pas tous mon témoignage, j'étais athée. J'avais eu une adolescence assez difficile. Je suis né dans une famille catholique, non pratiquante. Hein. Et puis pour moi, à force Dieu, c'était un peu comme le Père Noël, quoi. Jésus était cousin du Père Noël parce que, bon, voilà, c'était. Je préférais vivre ma vie d'adolescent, c'était beaucoup plus cool. Et j'étais athée parce que je ne comprenais pas comment, un peu comme Gédéon, si Dieu tu existes, pourquoi on est pillé par Madian, pourquoi tant de mal, pourquoi tout ce monde, pourquoi ces guerres, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi? Et bon, plus ça allait, plus je coulais. Et plus je coulais, plus j'avais vraiment un vide dans le cœur que rien ne pouvait combler. Et un jour, j'en ai eu marre. J'ai dit, Dieu, si tu existes, donne-moi la foi. Comme vous savez que la foi, c'est pas nous qui pouvons la créer, que c'est un don de Dieu. Donne-moi la foi. Et je me suis endormi, athée. Enfin bon, j'ai quand même prié Dieu, c'est au cas où il existe, mais. Des fois, c'était de toute façon, c'était la dernière chose qu'il pouvait faire. Et j'ai pas vu vous inquiétez pas, j'ai pas eu de vision, j'ai pas eu de visitation, j'ai pas eu Jésus ou Dieu qui est apparu dans ma chambre, j'ai pas vu d'ange non plus, j'ai pas vu l'ange de l'Éternel. Je me suis réveillé le matin, j'étais convaincu que Dieu existait. Je sais pas pourquoi, hein, je ne pourrais pas l'expliquer. Hein, le soir, je me couche avec un grand vide. Le matin, je me lève avec un grand projet, une grande espérance, une ferme assurance plutôt qu'une grande espérance, parce que j'espère, bah oui, j'espère, peut-être ben oui, peut-être ben que non, comme les Normands, hein. Inch'Allah. Par contre, une ferme assurance, c'est oui, Dieu existe. J'ai pas vu de miracle, hein, c'est vraiment quelque chose d'intérieur, mais c'est une réponse à une prière quand même. Si tu existes, donne-moi la foi. Et à partir de là, bon, j'ai continué mon cheminement, mais avec la parole de Dieu. Dieu veut une relation, l'Éternel veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Avec toi, 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 toi. Et je dirais plus, pas nous. Dieu s'adresse à je. Il ne s'adresse pas à nous. Vous savez que nous, on est dans la Bible hébraïque, anarnou, c'est le nous, il apparaît la première fois dans la Bible à un passage. C'est nous allons bâtir une tour et nous allons nous faire un nom et nous nous rebellerons contre Dieu. Nous, c'est le système babylonien. Et quand vous regardez les hommes politiques, je ne sais pas si vous les avez écoutés, ils disent jamais, ou très rarement, il y en a quelques-uns qui le disent, mais très rarement ils utilisent « je ». Ils disent toujours « nous ». Nous allons faire ci, nous l'Europe, nous ceci, nous cela, nous le gouvernement, nous. Mais Dieu, quand il nous parle, que l'Éternel soit avec toi, vaillant héros. Je t'ai appelé. Je t'ai appelé, toi, 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 toi. Chacun, je pourrais citer les noms de chacun ici. Et chacun est appelé à une chose différente. Et je dirais, chacun est appelé différemment. C'est pas l'Église, c'est pas un ensemble de, j'allais pas dire de clowns, mais de clones. Chacun a sa foi, sa sensibilité, à son appel. Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi. Et il est inutile de se poser les mauvaises questions. Les mauvaises questions, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Quel est mon appel? Alors c'est vrai que c'est légitime. Mais si tu ne le sais pas, si tu as un appel, tu le sais. Sache-le. Si Dieu t'appelle, tu vas le savoir. Mais tant que Dieu ne t'a rien dit, va avec la force que tu as et fais ce que ta main trouve à faire. Reste pas immobile. Vous savez, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est pas fait pour rester assis sur une pierre sur le bas-côté. C'est fait pour marcher. Jésus a dit, je suis la porte aussi. Une porte, c'est pas fait non plus pour rester fermée. C'est fait pour être traversée. Il y a toujours une notion de dynamique. Moi, vous savez, le projet de Dieu, quand j'avais 16 ans, je ne le connaissais pas beaucoup. Hein. Et si je racontais au petit garçon, enfin à l'adolescent de 16 ans, ce que je suis maintenant, je crois qu'il rigolerait. Et il était loin d'imaginer ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait et a utilisé. Le chemin s'est éclairé au fur et à mesure. J'ai pas eu dire, voilà, j'ai eu des appels, oui, si, j'ai eu des appels. J'ai même eu des appels qui sont restés plus de 30 ans sous le boisseau, parce que c'était pas le temps. Mais le chemin, c'est pas à nous de le connaître. Si vous voulez connaître, c'est pas, Dieu n'est pas Waze. Ce n'est pas un GPS. Il ne va pas vous indiquer la destination. Si, la destination, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. C'est la vie éternelle. Mais sur terre, sur ce que vous avez à faire sur terre, il ne va pas être précis comme ça. Il va dire, va, marche, et je t'indiquerai la route au fur et à mesure. Il ne va pas dire, tu vas à Marseille. Vous voyez ce que je veux dire ? Fais ce que ta main trouve à faire. Si tu es une mère de famille, enfermée avec tous tes enfants à la maison, eh bien, fais-le de tout ton cœur. Sache que tes enfants, c'est ton ministère. Ne cherche pas autre chose. C'est évident. Je dirais aussi un père de famille. Si tu es juste fais les choses tous les jours dans la simplicité. Si tu as un boulot ou tu as un patron qui est très désagréable, le boulot est pénible, bah, tant que Dieu ne te montre pas autre chose, fais-le avec simplicité. Et c'est comme ça qu'on rentre dans le véritable appel de Dieu. Au fur et à mesure où on marche, on est fidèle dans les petites choses. Dieu nous donne des choses plus grandes et des choses plus importantes. On n'est pas tous appelés à prêcher, on n'est pas tous appelés à devenir pasteur, on n'est pas tous appelés à chanter, on n'est pas tous appelés à enseigner. Mais croyez-moi, celui qui fait le ménage dans cette église est plus important que celui qui prêche. Je le dis, celui qui fait le ménage dans cette église, celui qui sert, qui sert, quoi qu'il fasse, même à l'extérieur, mais qu'il fasse quelque chose avec Dieu, est plus important que celui qui est au-dessus, qui se montre, celui qui est en honneur, on pourrait dire, mais non, il n'y a pas, on est tous égaux. Fais avec la force que tu as. Ésaïe 43, pour vous montrer que Dieu nous appelle séparément. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Donc il s'adresse à Jacob. Hein. Et c'est toujours l'Éternel qui t'a créé. Hein. C'est en ayant toujours cette notion de création, de matrice, du sein de la mer. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, toujours notion de formation, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Voilà le cœur de Dieu pour Jacob, pour Israël, là, bien sûr, puisque c'est adressé à lui, mais pour chacun d'entre nous aussi. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, et tu es à moi. Et ne crains pas, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Bien sûr, et ça, des fois, ça a été une déviation dans certaines églises chrétiennes, où on a prêché que bah, si tu viens à Jésus, si tu es fidèle à Dieu, il ne t'arrivera rien. Vie de Peace and Love, c'est peut-être les années 68, je ne sais pas. Et Peace and Love, c'est-à-dire quand tu... C'est un chemin rose avec des fleurs partout, et puis tu vas aller au paradis, Gan Eden, sans souci. Hein. C'est pas ce que dit Dieu. Il a dit, ne crains rien. Il a dit, ne crains rien. C'est la première chose, n'aie pas peur, car je te rachète. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire, c'est la justification. La justice pour être avec Dieu, pour être en relation avec Dieu, il faut être justifié, racheté du péché. Je t'appelle par ton nom. Tu as un nom. Et vous savez que quand les apôtres, ils avaient été faire le tour du royaume de Juda en disant, oh, les démons, on a chassé des démons, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait des miracles en ton nom, dans le nom de Jésus. Il a dit, mais c'est bien. Mais réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Pour Dieu, c'est ça qui est important. Notre nom, il est où dans le livre de vie? Je t'appelle par ton nom. Tu as un nom, tu n'es pas un numéro, tu n'es pas le 28e membre de l'église de Persan. Tu as un nom. Et Dieu t'aime et t'appelle par ton nom. Ésaïe 45, toujours. Là, c'est encore pire dans le contexte des Écritures, puisqu'il s'adresse à un païen. Il s'adresse à Cyrus, qui était le roi de Perse. Cyrus, roi de Perse. Ainsi parle l'Éternel à son Messie. Son roi, ça veut dire son Messie. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu une onction déjà. À Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer et je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu, je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est ainsi que l'on sache, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux se répandent d'en haut, que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Après, tu pourrais lire la suite, il dit « Malheur à celui qui conteste avec son créateur comme les vases d'argile ». Vous pouvez lire, ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai que nous, on a toujours tendance à contester ce que Dieu fait. Dieu fait. Il est souverain. Il crée tout. Il crée la prospérité, mais il crée l'adversité aussi. Dieu nous bénit, mais Dieu permet des fois qu'on passe par des chemins plus difficile. C'est pas qu'il nous aime moins. Hein. C'est que Dieu a quelque chose. Dieu veut faire quelque chose avec nous. Si vous mettez à la place de Joseph, sa vie a-t-elle été rose? Il a été vendu par ses frères. Il a passé quelques jours dans une citerne. Il a été esclave. Il s'est fait, dénoncer injustement pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, quelque chose de grave. Il a été en prison. Ah, oh, c'est super le plan de Dieu. Eh. Joseph, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'appelle par ton nom. Tu es à moi. C'est super. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu premier ministre, number two de l'Égypte. Premier ministre de Pharaon. Il a sauvé l'Égypte de la famine. L'Égypte, c'était, on pourrait dire maintenant, c'était la plus grande nation du monde. C'est les États-Unis ou la Russie, comme vous voulez, ou la Chine. C'était vraiment the big nation. Et le Joseph qui était en prison, lui, il a sauvé cette Égypte. Il a sauvé l'Égypte. Mais aussi, il a sauvé Israël, sa famille, de la famine. Vous voyez, l'adversité n'est pas forcément quelque chose de négatif. L'adversité, c'est quelque chose qu'il faut passer avec Dieu. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Bien sûr, j'espère que vous êtes à lui. Soumettez-vous à lui. Et le diable fuira loin de vous. Dans Ésaïe 56, il parlait des eunuques. Je vais me dire tout ça, c'est de l'Ésaïe, mais au verset 4, car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes Shabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs, donc dans mon temple et dans mes murs, une place et un nom. Préférable à des fils et des filles, je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour me servir, pour aimer le nom d'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont les Shabbats pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans mon temple, dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon enfance, sur mon autel, car la maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. À tous ceux qui se disent « je suis sec, je ne porte pas de fruits », eunuque, c'est ça, ce que ça veut dire, hein, c'est « je ne peux pas avoir d'enfant ». Je ne porte pas de fruits, je n'ai pas porté beaucoup de fruits pour l'Éternel. Je n'ai pas fait... Vous savez, on est dans une culture occidentale, c'est la culture du résultat. La culture du résultat, c'est voilà, il faut être rentable. Ça, c'est ce que le monde nous enseigne, c'est ce que l'Égypte nous enseigne, il faut être rentable. Tu n'as peut-être pas été rentable jusqu'à ce jour-là. Mais si tu t'attaches à moi, l'important, c'est que tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes sont dans ces deux commandements-là. Alors j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quand vous dites « je laisse à Dieu la première place », c'est pas terrible. On ne laisse pas à Dieu la première place. Moi, je ne laisse pas à Dieu la première place. Je laisse à Dieu toute la place. Parce que si vous avez une première place, ça veut dire qu'il y en a une deuxième. Ça veut dire qu'il y en a une troisième, ça veut dire qu'il y en a une quatrième. Ça veut dire que vous êtes compartimenté. Dieu est dans une... Il y a une place, hein. La première place, elle est là, la deuxième, la troisième, la quatrième. Non, Dieu n'a pas la première place. Dieu a la première place, il a la deuxième place, il a la troisième place, et il a la dernière place. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Et il y a des passages, je ne vais pas m'étendre, mais il y a des passages dans les psaumes qui disent que tout mon être est à toi. Et il y a d'autres passages qui a dit, ce que tu veux, c'est un cœur entier et non pas partagé. Un cœur entier et non pas partagé. Soyez entier. Même si ce n'est pas parfait, soyez entier. Ne soyez pas partagé. Et je vais conclure, toujours par Jérémie, qui, bien qu'il ait été, dès le sein maternel, appelé, et qu'il avait été consacré avant même qu'il ne fût créé. Regardez la vie de Jérémie, du prophète Jérémie. J'ai pas envie de la voir, sa vie. Il a été persécuté. Il a été enfermé aussi dans une citerne. Il a été emmené de force en Égypte contre ses prophéties, parce qu'il savait qu'il ne fallait pas aller en Égypte. Il avait prévenu, mais il a été emmené de force en Égypte et il est mort là-bas. Je veux dire, mais alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Mais il a simplement annoncé des choses, Jérémie. Et il a donné l'espoir au peuple d'Israël. Contrairement à tous les prophètes qui disaient « Non, Babylone, vous allez les vaincre, vous allez être ceci, Jérusalem ne sera pas détruite. » Jérémie, c'était le seul à dire « Bah si, le temple va être détruit, vous allez être emmené en déportation pendant 70 ans. » Mais et puis les autres « Non, non, c'est pas possible, c'est faux, t'es un faux prophète. » Et donc dans Jérémie, alors on va regarder les lamentations de Jérémie. J'aime pas ce terme, lamentation de Jérémie. Jérémie a vu des choses que je ne souhaite à personne de voir. Il a vu Jérusalem détruite. Il a vu des gens emmenés en déportation. Il a vu des enfants défaillir dans les rues de Jérusalem ou mourir dans les bras de leur mère. Mais il écrit une lettre à tous ceux qui sont déportés, qui sont à Babylone, qui ont été déportés. Il a dit, bah, écoutez, n'ayez pas d'espoir pour l'instant. Retournez à l'Éternel et surtout, et Jérémie, Lamentation 3. Je retrouve le passage. Donc il écrit un courrier aux exilés qui sont à Babylone, puis il leur dit, non, mais n'ayez pas d'espoir, c'est pas pour tout de suite. Achetez des maisons, des terrains, mariez-vous, ayez des enfants, priez pour la ville de Babylone, pour que vous soyez en paix avec elle. Parce que l'Éternel se souviendra de vous, c'est Jérémie, Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Et au verset 19. Et à un moment, il dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, » ça c'est Jérémie qui parle, « à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient et qu'elle est abattue au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elle se renouvelle chaque matin. Ô que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasira d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas toujours, et lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Ce n'est pas volonté qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule en pied tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Pourquoi se plaigne? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Le gars, il a tout vu. Des malheurs que je ne souhaite à personne de voir. Et il dit quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas À leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu nous appelle par notre nom. Levez les yeux vers l'Éternel. Levez les yeux vers le Seigneur. C'est lui qui nous appelle, mais c'est lui aussi qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne le chemin que nous devons suivre. Mais ne perdez pas confiance, ne perdez pas courage. On se fait des fois des cinémas sur ce que Dieu veut de nous. Je dis bien du cinéma. Mais la seule chose que Dieu veut, c'est qu'on aille avec la force que l'on a et qu'on l'en suive, qu'on colle à lui. J'aime bien le terme de Chouraki quand il parle de la foi. Il parle d'adhérence. On adhère, on colle à lui. C'est la foi, c'est l'adhérence. Coller à Dieu avec l'aide du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Coller à Dieu avec l'aide du Saint-Esprit en Jésus-Christ. C'est sûr qu'on peut se poser des questions des fois sur ce qui arrive. Moi, je me suis posé la question pour Moïse, pour Jean-Robert, pour... Mais pourquoi Dieu, tu permets ça, quoi ? Pourquoi ? J'en sais rien. Mais je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Ils se renouvellent chaque matin. Je ne sais pas. Mais je sais que Dieu est là. Et je sais que tout est sous contrôle. Parce que ces personnes-là n'étaient pas là par hasard. Ces personnes-là ne se sont pas tournées en Jésus-Christ par hasard. Ces personnes-là aiment l'Éternel. Et l'Éternel va prendre soin d'eux. Amen. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ne regardez pas à droite et à gauche. Va avec la force que tu as. Amen.
Merci beaucoup Lionel pour ces rappels que Dieu est toujours là. Je ne vais rien rajouter parce que je pense qu'il y avait largement de quoi méditer. Je voudrais juste rappeler que nous n'avons pas le droit, mes frères et sœurs, de se rassembler à l'extérieur de l'église. Donc si vous voulez discuter, restez dans l'enceinte du bâtiment, sinon partez dans la paix du Seigneur, dans la simplicité, mais ne discutez pas. Je sais qu'il y a des fois, c'est très tentant quand tu as un beau rayon de soleil dehors. C'est interdit et en plus, ça fait un mauvais témoignage dans le quartier. Voilà. Eh bien, Seigneur, je veux te louer, te remercier. Merci pour ta parole, merci parce que tu nous as parlé. Et je veux bénir nos frères et sœurs dans le nom puissant de Jésus. Raccompagne-les, Seigneur, que ces paroles puissent travailler nos cœurs, effectivement. Tu es vraiment ce Dieu grand et glorieux. Et je veux te louer, te remercier pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié. Amen. Bon dimanche.